Les fruits de charité, ils sont nés par une révélation privée à Marthe Robin. C'est Jésus disant à Marthe, je veux faire ici quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour notre Église, pour l'Église. Et en même temps, Jésus développait un petit peu ce qu'il attendait des foyers de charité et la place de Marie dans les foyers. Jésus précisa un peu plus loin, ma très sainte mère qui sera la reine glorieusement aimée et écoutée de ce foyer de mon amour, qu'elle conduira elle-même par sa présence toute maternelle. Vous voyez, dès le départ, Jésus a placé les foyers de charité sous la maternité de Marie. Et en même temps, Jésus a précisé aussi qu'il choisissait un prêtre pour être le père spirituel de Marthe et qu'entre eux, il établirait une très grande intimité spirituelle. Et c'est à partir de cette communion très grande et très spirituelle que les foyers ont pu naître. Donc, les foyers reposent sur cette communion, sur cette collaboration permanente entre prêtres et laïcs. Et d'ailleurs, on retrouve à travers cette communion permanente entre prêtres et laïcs ce qui s'était déjà établi entre Jean et Marie. Au pied de la croix, Jésus dit « Voici ta mère, voici ton fils ». Et à partir de cet instant-là, Jean l'a pris chez lui. On peut considérer que ce n'est pas la prendre dans sa maison, mais c'est Jean, le jeune prêtre ordonné de la veille, qui prend Marie, la laïque, dans son sacerdoce.
Et quelles sont les missions des foyers de charité?
Je dirais que la première mission d'un foyer de charité, c'est de témoigner de cette communion, de témoigner, je dirais, par cette communion de l'immense amour de Jésus pour chaque homme, chaque femme, en donnant l'enseignement de l'Église à travers des retraites de 5 jours. Notre mission particulière, c'est de transmettre la foi de l'Église. Vraiment de transmettre le kérim de l'Église, le credo de l'Église, l'universalité de cette foi de l'Église. Notre mission, c'est de donner des retraites d'enseignement qui sont reçues dans le silence pour laisser Jésus parler au cœur de chaque retraitant. Elles sont données par le père du foyer, mais elles sont portées par la prière et le travail de la communauté. Pendant tout le temps où le père de la communauté prêche, il y a toujours des membres en adoration et des membres au travail pour préparer l'accueil des retraitants. Et en même temps, notre mission, c'est de convertir les adultes en s'appuyant sur la prière des enfants. C'est pour ça que dès le départ, Marthe a souhaité qu'il y ait une école qui soit ouverte à Châteauneuf pour que la prière des enfants aide à la conversion des adultes.
Et quelle est l'importance justement de ce silence dans les retraites que vous organisez dans les foyers de charité?
Le silence pour nous est quelque chose de fondamental. Le monde actuel a beaucoup trop l'habitude de tout remettre en question, de tout rediscuter, de tout partager, de ne jamais approfondir, j'irais un peu de zapper. On passe d'un sujet à l'autre, on aborde, on n'approfondit pas. Alors que si Jésus veut parler au cœur des retraitants, ce n'est pas à travers des carrefours, ce n'est pas à travers des discussions sans fin qui restent uniquement au plan humain. C'est véritablement entendre cet enseignement, ensuite aller à la chapelle devant le Saint-Sacrement pour le prier et l'assimiler. C'est prendre suffisamment de recul pour que Jésus puisse parler au cœur de chacun des retraitants qui viennent ici. Bien sûr, au début, on peut craindre, certains retraitants craignent un peu, ce silence, en disant, voilà, mais une semaine en silence, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'en réalité, c'est au contraire une grande paix qui envahit le retraitant. Une fois, il y a une retraitante qui était montée voir Marthe et qui lui disait, Marthe, Jésus ne me parle jamais. Alors Marthe lui pose la question, mais comment est-ce que vous priez? Oh, je commence par prier le chapelet, après ça je fais une lecture spirituelle, après ça je relis l'évangile, après ça je relis la messe, après ça je lui raconte tout mon problème de journée. Et Marthe de l'arrêter en lui disant, mais madame, vous parlez tout le temps, comment voulez-vous que Jésus ait le temps de vous parler? Taisez-vous, écoutez. Ben, je crois que c'est un petit peu ça la retraite, c'est prendre du temps pour écouter Jésus, écouter ce qu'il a à me dire.
Qu'est-ce qui, de la vie de Marthe Robin, vous marque le plus et vous pousse peut-être sur un chemin de sainteté?
C'est son côté concret. Vous savez, Marthe était une paysanne qui s'intéressait à tout ce qui touchait la vie de la ferme. Elle vivait dans la ferme de ses parents. Depuis cette maladie qu'elle a eue vers 17-18 ans, elle n'en est plus jamais ressortie. Et continuait toujours à s'intéresser à cette vie de la ferme. Je l'entends encore quand on rentrait avec le père Fina, après avoir été à Lyon, faire un certain nombre de courses, visiter des personnes. Marthe demandait au père, « Vous avez bien vendu les œufs, père ?» C'est ce qui me pousse personnellement et qui pousse nos communautés aussi, c'est qu'on peut être pleinement enraciné dans la vie, comme l'était Marthe, s'intéressant à tout ce qui se passait à la ferme, voulant savoir où en était le blé qui pousse, voulant savoir comment on avait labouré un champ, si on a bien pris les courbes de niveau, etc. Et en même temps, être complètement dans le Christ. Marthe, bien que tout en Dieu, n'avait pas une mystique évaporée, une mystique éthérée ou moralisante. Marthe avait les pieds pleinement sur terre, mais la tête et le cœur dans le ciel. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de faire. Nous avons à être qualitativement plus chrétiens dans le témoignage que nous donnons, dans nos activités quotidiennes, à être qualitativement plus chrétiens que quantitativement plus dévots dans le nombre de prières que nous pouvons avoir et de lectures spirituelles. Nous devons être ces laïcs au milieu du monde qui témoignent de cette foi très profonde en Jésus. Le père Finet nous disait de temps à autre, « Si vous saviez combien d'âmes ne communieront à Jésus que par votre communion du matin. » Vous voyez, que ce soit le téléphone, que ce soit le boulanger, que ce soit le garagiste, que ce soit le collègue de travail, que ce soit ceux que nous rencontrons dans la rue, combien de personnes ne communieront qu'à travers notre communion du matin. Et je pense que c'est en cela que Marthe continue d'inspirer les foyers de charité. C'est toujours à travers cette communion très forte entre le sacerdoce ministériel du prêtre et notre baptême que nous retrouvons cette communion très forte dont nous essayons de vivre.